qui êtes rassemblés dans ce temple, quels que soient vos chemins de vie, vos chemins de quête, vos chemins de foi, vous êtes les bienvenus et vous êtes ici chez vous. À vous qui êtes venus, la force qui fait tenir debout, la sagesse qui éclaire, l'énergie qui met en route, la paix qui met en harmonie, tout cela est donné pour vous et entre vous, par celui qui vous reconnaît et vous appelle, celui qui est vie et amour pour tous. Je vous invite à entrer dans la louange dans laquelle Françoise va nous conduire. Et nous nous levons.
À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des cœurs brisés, des cœurs hésitants, des cœurs battants, Dieu des chemins égarés, escarpés, des routes à tracer, Dieu des bras ouverts, des mouchoirs serrés, des sourires offerts, ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des jours d'abandon, de questions, d'amitié, Dieu des douleurs éprouvées et des tendresses partagées, Dieu des patiences, des persévérances, des fidélités, ton amour est mon appui. Toi qui appelles, qui m'appelles, qui nous appelles, et nous rassemble dans ta confiance, dans ton espérance et dans ton amour. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Amen.
Et nous louons encore avec le chant du psaume 92, « Oh, que ces choses belles !» Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Prenez place. Et nous prions. Voici, éternel Dieu, tout est là. Ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui arrive et ce qui n'est plus là. Ce que je suis et ce que je ne suis plus. Tout est là. Ce que j'attends et ce que tu promets. Ce qui m'illumine et ce qui m'enferme. Ce qui est visible et ce qui ne se voit pas. Tout est là. Quand je suis seule et quand je suis entourée. Quand on me voit et quand tu me regardes. Quand je comprends et quand ça me dépasse. Tout est là. Quand j'ai peur et quand je prie. Quand je doute et quand je crois. Quand on parle de toi et quand tu parles en moi. Tout est là. Et toi, tu recueilles tout. Amen. Et nous chantons encore au cantique 242. Nous t'invoquons, ô Seigneur, nous nous levons pour chanter. Avant de lire dans les Écritures, nous prions. Dieu fidèle, tu viens sans cesse à notre rencontre. Alors ne permets pas que nos vies s'endorment dans la routine. Par ton esprit, que ta parole réveille notre foi et relève notre existence. Oui, tiens-nous debout et ensemble, vigilant dans l'écoute de ta parole et dans le service des vivants. Amen. Alors, comme je l'avais annoncé dimanche dernier, et comme vous pouvez le voir sur les feuilles de culte, nous lirons aujourd'hui dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 1 à 10. C'est la traduction de la Nouvelle Bible Second que vous avez sur les feuilles à un mot près. Il faut faire le fier. Certes, c'est inutile, mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ. Voici 14 ans. Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Je serais fière d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serais pas fière, sinon de mes faiblesses. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis puissant. Il n'y a pas dans les lettres de Paul d'autres passages aussi personnels et aussi passionnés que la dernière partie de la deuxième épître aux Corinthiens, les chapitres 10 à 13. Une dernière partie qui forme un ensemble très serré dans cette épître qui est vraisemblablement composée d'un assemblage de plusieurs écrits de l'apôtre. Paul doit se défendre face à des adversaires qui contestent son ministère auprès des Corinthiens et qui, avec un certain succès, dévalorisent son enseignement et sa personne. Nous ne connaissons pas directement les arguments des adversaires de Paul. Nous ne connaissons que ce que l'apôtre en écrit. Mais il est facile de comprendre que Paul est accusé de ne pas être à la hauteur. Autrement dit, il n'est pas assez bon orateur. Il ne produit pas de preuve de son excellence spirituelle, des révélations, le parler en langue, l'aide guérison, tout ce dont ses adversaires se prévalent auprès des Corinthiens. Seulement au-delà de l'émotion débordante, Au-delà de la colère et du désespoir de l'apôtre qui rendent ces chapitres tellement poignants, il est aussi question de théologie. Et quand il est question de théologie, il est aussi question de la compréhension de ce qu'est l'humanité de l'être humain. Paul commence par dire précédemment à ce passage que nous avons lu qu'il fait le fou. C'est-à-dire qu'il rejoint ses adversaires sur leur propre terrain. Le terrain, pourrait-on dire, de la vantardise. Une manière de se mettre en avant pour convaincre qu'on est quelqu'un qui mérite non seulement le respect, mais aussi l'admiration. Du point de vue de Paul, il s'agit pourtant de montrer que son existence d'apôtre est cohérente avec son ministère et sa proclamation. Elle est cohérente avec l'appel qu'il a envoyé annoncer l'évangile du Christ crucifié et ressuscité, l'évangile de la grâce inconditionnelle. Paul se justifie, mais c'est parce qu'il y est acculé par les accusations dont il fait l'objet, par le mépris qui lui est renvoyé. Il ne s'est pas fait entretenir par les Corinthiens, à la différence de ses adversaires. Mais c'est parce que Paul les sert au nom de l'évangile de grâce. Son parcours personnel d'israélite et de pharisien n'a rien à envier à personne. Et les multiples tribulations et persécutions qu'il a eu à subir lors de ses 20 années de voyage et à cause de sa prédication témoignent de sa foi, de sa fidélité, de son engagement total. Et puis vient l'extrait que nous avons lu. Paul se résout, après avoir fait le fou, à faire le fier. Ou plutôt, toujours en faisant le fou, il pointe cet aspect particulier de la folie qui est la fierté, ou l'orgueil, ou encore l'auto-glorification dans un domaine particulier, celui des révélations survenues lors d'expériences extatiques. Les expériences extatiques, ce n'est pas ce qui nous est le plus familier à nous autres réformés et libéraux du XXIe siècle. Et pourtant, ce que livre Paul à ce moment de son expérience personnelle n'est pas étranger à ce que nous vivons. Parce que Paul, au travers de son propre exemple, parle profondément, essentiellement, de la condition humaine. Et cela nous concerne infiniment. Alors Paul commence par les hauteurs. Celle d'une extase dont il a fait l'expérience. Car c'est bien de lui dont il est question, même s'il use de la distance de la troisième personne. Je connais un homme. Un enlèvement au troisième ciel, un ravissement au paradis, des paroles ineffables, inexprimables. Et cela, il y a 14 ans. La seule véritable précision du récit qui ne sert franchement à rien. Le dévoilement de cette expérience spirituelle très intime ne révèle paradoxalement rien, quelle que soit la hauteur du ciel où Paul a été enlevé. Parce que pour l'apôtre, cette expérience intime doit rester intime. Cette expérience n'a pas à être objet de publicité, parce qu'elle focaliserait l'attention sur son caractère extraordinaire et impressionnant. Et Paul paraîtrait alors plus qu'il n'est, et cela, il le refuse. C'est dans ce même ordre d'idées que l'évangéliste Jean n'appelle pas des miracles « miracles », mais « signes », pour que le lecteur n'oublie pas qu'il faut regarder au-delà de ce qui se passe, vers ce que ce qui se passe désigne et signifie. Pour le dire encore autrement, à Dieu seule la gloire. Et la gloire de Dieu n'a absolument pas besoin de prestige, de rien de ce que les humains appellent prestige. Ni lumière de projecteur, ni or pour la faire briller, ni vénération aveugle ou aveuglée. Mais encore, Paul ne dit rien parce que ce n'est pas là-haut, au troisième ciel, ce n'est pas au paradis que l'existence humaine se déploie et souffre, qu'elle s'incarne et se perd, qu'elle œuvre et se relie à autrui. C'est en bas, sur terre, c'est dans l'expérience quotidienne d'humanité. Et cette expérience quotidienne d'humanité ne peut jamais faire l'impasse sur la faiblesse. Plus même, elle se tient dans la faiblesse. Alors du troisième ciel, Paul fait redescendre les lecteurs de l'Épître sur une terre de douleur, dans sa propre chair souffrante. Il y a plus d'une centaine d'explications médicales, psychologiques ou spirituelles apportées pour expliquer cette écharde qui fait souffrir Paul. Cela ne nous avancerait à rien de savoir en quoi elle consistait précisément. Paul fait le fier, comme ses adversaires, qu'il qualifie par ailleurs de super-apôtres. Comme ses adversaires font les fiers en se targuant de leurs compétences et performances spirituelles. Faire le fier, se vanter, s'enorgueillir, selon les traductions, ce n'est pas du tout dans un registre moral. Il ne faut pas comprendre ainsi ces termes, il ne s'agit pas pour Paul de fustiger un péché d'orgueil. Faire le fier, se vanter, s'enorgueillir, c'est donner à voir ou à entendre des marques ou des preuves pour se justifier. C'est montrer qu'on a en soi de quoi donner du poids et de la valeur à son existence. C'est manifester qu'on mérite de compter. C'est profondément croire que l'on trouve en soi ce qui donne sens à sa propre vie. Alors, pour faire le fier, Paul expose sa faiblesse et sa souffrance, cette écharde persistante. On peut d'ailleurs noter que le mot grec qui est traduit en général par écharde dans nos Bibles en français signifie également poteau de torture. C'est une autre échelle que l'écharde. Cette écharde persistante qui l'empêche, qui le restreint et dont il n'est pas soulagé malgré sa prière répétée. Alors ce n'est vraiment pas un super Paul selon le point de vue des super apôtres qui se dévoile aux Corinthiens. Il souffre et sa prière n'a pas été exaucée. Seulement, c'est cette condition de faiblesse qui est pour lui le lieu d'une révélation que cette fois il partage. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors bien sûr, il n'est pas question de rechercher la souffrance ni la faiblesse pour obtenir la grâce ou recevoir une divine puissance. La lettre de Paul n'ouvre pas la porte à aucune pratique de mortification, ni d'ailleurs à aucune paresse, ni démission justifiée par la faiblesse. Ce n'est pas non plus que la faiblesse recouvrirait en réalité une force cachée, ni que toute situation de faiblesse, comme il arrive à tout humain d'en connaître, serait un signe divin. La révélation partagée par Paul ne peut pas non plus être assénée comme une réponse à quelqu'un qui serait éprouvé par une souffrance. Ce serait assez cruel et ce serait manipulateur et du texte et de la personne souffrante. Non, cette parole de Paul ne peut pas devenir une loi ou un dogme sans être vidée de la confiance et de l'espérance dont elle rend compte. Seulement, ce qui est considéré par les super apôtres, mais par bien d'autres, comme dévalorisant, comme un manque spirituel, comme un défaut d'être, même si l'on n'y peut rien, ce qui occasionne de la condescendance ou du mépris, est devenu le lieu de la grâce agissante. Pour Paul en particulier, cela signifie que sa vocation d'apôtre ne dépend pas de ses propres forces et n'est donc pas compromise par sa faiblesse. Ce qui est libérateur et vivifiant pour nous, pour tous et toutes, c'est qu'il n'est pas besoin d'être fort pour être au bénéfice de la grâce et pour recevoir chacun, chacune, d'une manière personnelle, la vocation qui appelle chacun, chacune d'une manière personnelle, la vocation qui appelle à devenir des porteurs et des témoins du Christ crucifié et ressuscité. Alors la lettre de Paul, comme bien d'autres textes des Écritures, questionne notre rapport à la faiblesse, à la pauvreté, au dénuement. D'abord à travers la manière dont sont considérées celles et ceux qui se trouvent dans de telles situations d'existence dévalorisées par les logiques et les idéologies de performance. Des prophètes d'Israël à Paul et aux évangélistes, l'inclinaison de Dieu pour les pauvres, pour les faibles, est proclamée, racontée, confessée. Et la dignité des humains est attestée, une dignité inconditionnel. Et les logiques du monde sont renversées, et le monde lui-même est mis sans dessus dessous par les protestations des prophètes, par les paraboles de l'homme de Nazareth, par sa prédication en paroles et en actes du royaume de Dieu. Mais un peu plus, avec Paul et avec bien d'autres livres de la Bible, nous pouvons comprendre que la faiblesse caractérise la condition humaine. La faiblesse, la vulnérabilité, la faillibilité. Coëlette, l'Ecclésiaste, dit « la buée, Hevel, Abel ». Les réformateurs nomment cette condition le péché. Et ce n'est pas du tout une catégorie morale, mais cela relève de l'empêchement d'être. Et face à ce péché, et à la suite de Paul, les réformateurs posent la justification, qui n'est pas la pesée du ou des péchés, mais l'œuvre de la grâce de Dieu. Dieu déclare juste ces humains qui ne peuvent pas trouver en eux-mêmes leur justification d'être, sinon en se vouant à la force, à la performance, à la compétition. Ce que précisément Paul reproche aux super-apôtres de Corinthe, et ce qui motive les idéologies mondaines condescendantes ou indifférentes envers les plus petits, qui sont le visage du Christ. Ce sont les pauvres, ce sont les faibles, ce sont les démunis, ce sont les humiliés qui nous donnent notre mesure d'humain, sans fard ni vantardise. C'est pourquoi d'ailleurs leur présence est si mal supportée, quand on croit qu'il faut être fort. Quand on vit comme s'il fallait être fort, remarquable, admirable pour que la vie soit vie qui vaille la peine d'être vécue. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, dans la première épître, au sujet des dons de l'Esprit, dont les super apôtres sont si fiers, il mentionne pour en clore la liste la voix par excellence, celle qui est supérieure à toutes. Et ce n'est pas la production de manifestations spectaculaires. La voix par excellence, c'est l'amour, l'agapé. La faiblesse comme condition humaine, quelle qu'en soit la forme, c'est à cela que Paul conduit les Corinthiens et nous-mêmes. Et ce n'est pas pour s'en lamenter, car la révélation qu'il a reçue dans sa faiblesse, c'est que la puissance de Dieu passe en elle. Et ce n'est pas pour rendre Paul fort et brillant et remarquable et vénéré et admiré, puisque les chardes demeurent plantées en lui. Mais c'est parce que la puissance de Dieu ne peut passer que par la faiblesse humaine. La puissance de Dieu n'a pas d'autre chemin que la faiblesse pour rejoindre l'humain, car seule la faiblesse peut reconnaître qu'elle a besoin de ce que Dieu donne. Seule la faiblesse peut recevoir ce que Dieu donne de vie et d'amour et de grâce et de paix. Seule la faiblesse sait, comprend qu'elle a besoin de recevoir, qu'elle ne peut que recevoir. Lorsque l'humain croit qu'il est fort, il ne peut pas recevoir. Or, recevoir, c'est le mouvement même de la foi et de la vie vivante. D'autant plus que la puissance de Dieu n'est pas une puissance forte au sens courant du terme. Elle n'est pas une puissance qui use ou qui privilégie la force avec tout le pouvoir, la contrainte et la violence qui sont toujours associés à la force. La force introduit dans des rapports de force. Elle cherche à faire pression et même elle ne répugne pas à détruire pour s'imposer, car l'usage de la force vise à la domination. La puissance de Dieu n'est pas une puissance qui se manifeste dans ce qui est spectaculaire, dans ce qui impressionne, dans ce qui marque jusqu'à écraser. La puissance de Dieu n'est pas plus que cet appel à devenir humain, pas plus que cette confiance donnée à l'humain qui lui communique le courage de vivre, pas plus que la possibilité du vivant au milieu des forces de destruction, la possibilité de l'amour au milieu des cris de haine. La puissance de Dieu, c'est cette offre d'une autre manière d'être qui soit réponse de Dieu dans le monde en proie aux prises à la violence et au pouvoir. La puissance de Dieu, c'est cette inclinaison pour celles et ceux qui ne sont rien. La puissance de Dieu, c'est de se révéler dans un homme juste, crucifié, qui pardonne à ceux qui le tuent, et dans une résurrection sans preuve manifeste devant le monde. Et il n'est pas de subversion plus grande dans le monde que celle d'une puissance aussi faible qui passe par la faiblesse des humains et qui est pourtant véritable puissance de résurrection. C'est lorsque je suis faible que je suis puissant, écrit Paul. Puissant, c'est le seul mot que j'ai modifié parce que la plupart des traductions, voire toutes, écrivent fort. Mais ce n'est pas fort, c'est puissant. Justement, La force n'est pas la puissance qui est une dynamique vivifiante. La puissance, c'est une énergie créatrice dont il importe peu de mesurer l'intensité parce qu'elle suffit toujours pour qu'il y ait autre chose que l'usage de la force. Et c'est un autre monde qui apparaît alors, un autre monde au travers du monde des forts et des prestigieux, ce monde des gagnants et des perdants, ce monde des super-héros, de la piété ou de quoi que ce soit. Un autre monde apparaît, un monde de l'inattendu, le monde des possibles. Un autre monde où l'amour n'est pas un sentiment, mais le cœur battant de nos vies, parce que l'amour est sans force, mais véritablement puissant. Un autre monde où le Christ n'est pas un être céleste et glorieux, mais le vivant dans chacune de nos vies. Amen. Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever et à vous associer à cette confession que Françoise va dire.
Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons que Dieu a créé et qu'il continue à créer, qu'il est venu en Jésus, vrai homme, pour apporter la réconciliation et le renouveau, qu'il œuvre en nous par son Esprit. nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église, pour célébrer sa présence, pour aimer et servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen.
Et nous chantons au cantique 251, « Grand Dieu, nous te louons ». Alors, des annonces pour ce dimanche 16 juillet. Dans les activités d'abord du jour, après le culte, il y aura, comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Une liste nouvelle a été affichée depuis dimanche dernier, donc vous pouvez la consulter, puisqu'il y aura également la collecte dimanche prochain. Également aujourd'hui, comme chaque dimanche du mois de juillet, après le culte, ceux qui le souhaitent peuvent se partager un repas. Je crois qu'aujourd'hui, on pourra s'installer sur la terrasse. Un repas avec ce que chacun apporte, mais si vous n'avez rien, ce n'est pas grave, venez quand même. Ou alors vous allez au marché trouver quelque chose rapidement après le culte. Donc au deuxième étage, sur la terrasse. Et puis dans la semaine, comme tous les mercredis, mercredi 19, donc à 19h30, il y aura un temps de partage biblique, le dernier de l'été. Et nous avons décidé ensemble, mercredi dernier, de parler, mercredi prochain, viande, régime carnet et régime végétarien. C'est à partir du texte de Genèse 9, la sortie de l'arche. Après le déluge, eh bien, Dieu autorise la consommation de viande à Noé. Alors nous verrons un peu ce que cela recouvre. Et nous pourrons aussi parler de nos pratiques et de nos choix actuels. Donc, mercredi à 19h30, ce sera dans la salle vitrée qui est au rez-de-chaussée. Jeudi, la pause spirituelle à 12h30 dans le temple, comme tous les jeudis de l'année. Et puis, jeudi soir à 20h, un événement remarquable. Vous en avez les affiches, vous avez reçu un mail de rappel, enfin d'information, si vous avez donné votre mail, un concert au temple à 20h, un concert autour de suite de Jean-Sébastien Bach au violoncelle par un jeune virtuose américain de 13 ans, Roma Graves, que j'ai eu l'occasion d'entendre parce qu'il est venu répéter ici cette semaine et c'est tout à fait éblouissant. Alors, si vous êtes là, venez, amenez des amis, de la famille, diffusez l'information. Il y a encore quelques tracts disponibles sur la table au fond du temple. C'est un concert qui est offert par certains artistes, qui effectue cet été une grande tournée avec une douzaine de concerts en Europe. Et il offre au Foyer de l'âme un concert supplémentaire, jeudi 20, au profit du Foyer de l'âme. Donc voilà, parlez-en. Faites de la publicité rien que pour l'extrême bonheur d'entendre ces suites de Bach au violoncelle. Et puis dimanche prochain, à 10h30, ce sera le culte, le dernier culte avant la fermeture du temple pour l'été. Le prochain culte aura lieu le 27 août. Donc d'ici là, vous pourrez aller où vous voudrez. Il y a bien d'autres paroisses à Paris qui proposent des cultes tout l'été. Et pour nous, ici, dimanche prochain, 10h30, eh bien, nous nous intéresserons à une des visions de la grande vision du livre de l'Apocalypse. Et ce sera la vision de la Jérusalem céleste. Voilà. Pour ces annonces, et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas, de prendre un bulletin de l'amitié, parce que vous y trouverez toute une série de bonnes lectures à lire pour réjouir votre été, et puis de me laisser vos coordonnées si vous souhaitez recevoir le bulletin plus régulièrement. Je vous rappelle aussi que toutes les prédications du Foyer de l'âme sont... vous pouvez les réécouter en podcast sur Spotify ou Deezer. Donc n'hésitez pas, si vous avez manqué un épisode de la série sur les songes et visions, ben, vous pouvez le réécouter ou n'importe quel autre culte. Voilà, ben, vous savez ce qui se passe d'après les mouvements et les bruits. Donc c'est maintenant le temps de l'offrande et vraiment que cette offrande soit libre pour pouvoir être une offrande joyeuse. Thank you. Nous nous recueillons ensemble dans la prière d'intercession.
Éternel, nous te rendons grâce pour que ce que nous recevons des témoins de la foi qui nous ont précédés et qui nous aident à comprendre ce que c'est qu'être vivant, être humain. Nous avons toujours besoin de devenir lucides sur ce qui nous habite et sur ce qui nous entoure, sur ses pensées, ses rêves, ses tentations de grandeur, de pouvoir, de renommée, de prestige, sur ses logiques de comparaison, de mérite, de performance. Nous avons besoin d'être éclairés pour ne pas nous y perdre et pour ne pas perdre celles et ceux qui ne sauraient pas, ne pourraient pas s'y débrouiller. Nous avons besoin d'être encouragés pour renoncer à l'exercice de grandes et petites puissances de domination sur autrui et sur ce qui nous entoure, et pour favoriser les solidarités et les coopérations. Nous voyons bien, nous savons, que tant d'hommes, de femmes, d'enfants sont meurtris et tués par ces logiques mortelles de cupidité, d'idolâtrie, de violence, d'indifférence. Et nous prions pour ne pas nous résigner, pour ne pas oublier, pour prendre notre part aux œuvres de justice, de respect, de paix. Et nous prions avec les mots que Jésus le Christ a donnés à ses disciples. Nous les disons à voix haute ou dans le secret de notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas
Et nous chantons le dernier cantique de ce culte au numéro 156. Laisse-moi désormais. Un dernier mot pour partir, un dernier mot du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon et ce que l'Éternel réclame de toi. C'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Amis, frères et sœurs, allez simplement, gaiement, aimablement, courageusement. L'esprit de vie et de joie vous accompagne. Allez, avec la force que vous avez, c'est suffisant, car l'Éternel Dieu est avec vous. Amen.